Yep, already.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Encore heureux. Aujourd'hui, portrait d'une grande dame de la littérature anglaise du XXe siècle, une écrivaine fragile, moderne, rebelle et géniale, Virginia Woolf.
Elle était extraordinaire parce qu'elle était mince, elle était haute, elle était aquilin. Enfin, elle avait un nez aquilin. C'est un mot qui s'applique à toute sa personnalité. Et très fine, on sentait qu'elle comprenait beaucoup de choses à la fois, n'est-ce pas? Et elle absorbait beaucoup, elle en écrivait sans doute, elle écrivait autour de ce qu'elle avait vu, mais au moment même où elle était très vivante aussi et très affectionnée. Et comme tante, elle était merveilleuse parce qu'elle pouvait se mettre avec nous. Elle ne parlait pas de haut en bas, mais tout à fait à notre niveau enfant. Et c'était très amusant. Je ne sais pas ce que c'était. C'était ce qu'on appelle le charisme, je suppose. Vraiment, quelque chose qu'on ne peut pas préciser.
Virginia Woolf est née à Londres en 1882, dans une haute maison un peu sombre, mais toujours remplie de monde. Ses parents sont tous les deux veufs lorsqu'ils se marient, si bien que les enfants de trois mariages différents cohabitent dans la vaste demeure du 22 Hyde Park Gate. Stella, qui mourra très jeune, Gérald, Laura, arriérée et violente, Vanessa, Toby, Virginia et Adrienne. La mère de Virginia Woolf, Julia Stephen, était la descendante d'une famille déjà connue pour son implication dans la vie intellectuelle de la société victorienne. Elle est belle et riche et élégante et cultivée. Elle pose comme modèle pour des artistes. Elle est aussi très souvent absente. Ses œuvres de miséricorde l'entraînent au dehors une grande partie de son temps, la rendant indisponible à sa famille. Avec un zèle infatigable, elle court d'un taudis à l'autre, jouant les infirmières auprès des mourants. Parfois, elle tend une joue lointaine à ses enfants. Jamais je ne suis restée seule avec elle plus de quelques minutes, regrette Virginia. Cette mère absente est emportée par la grippe en 1895, alors que Virginia a 13 ans. Deux ans plus tard, sa demi-sœur, Stella, disparaît à son tour. Virginia sombre dans sa première dépression nerveuse. Quant au père de Virginia, Sir Leslie Stephen, il est écrivain, éditeur et alpiniste, veuf de la fille aînée du romancier William Makepeace Thackeray. Il règne en despote sur toute la maisonnée. Virginia éprouve à son égard des sentiments ambigus. Son père, certes, lui a lu les grands textes, lui a ouvert sa bibliothèque et l'a encouragée à écrire. À ce titre, elle lui voue une gratitude infinie. Mais il lui inspire aussi une inquiétude sans nom, une méfiance sauvage, une horreur même, contre lesquelles elle ne cessera de se battre. 24 ans après sa mort, Virginia écrit dans son journal: il aurait pu avoir 96 ans, comme tant d'autres gens que nous avons connus. Mais grâce au ciel, il ne les a pas eus. Sa vie entière eût détruit la mienne. Que serait-il arrivé? Pas d'écriture, pas de livre, inconcevable. Autrefois, je pensais tous les jours à lui et à maman. Mais en écrivant « La promenade au phare », je les ai ensevelis dans mon esprit. Sir Leslie Stephen meurt en 1904. Virginia s'effondre à nouveau. Elle est brièvement internée. Elle ne dort plus, elle entend des voix qui l'appellent et tente de se défenestrer. Une fois rétablie, elle rejoint ses deux frères, Toby et Adrienne, et sa sœur Vanessa, lesquelles, délivrées de l'emprise paternelle, se sont installées au 46 Gordon Square, dans Bloomsbury. Une nouvelle vie commence. Toby invite les amis qu'il a rencontrés à l'université de Cambridge. Un petit groupe se forme, de jeunes gens riches, doués, brillants, spirituels et d'une folle liberté d'esprit. Ils sont essayistes, économistes, critiques d'art, peintres ou écrivains en herbe. Ils se querellent, ils se déchirent, ils s'aiment, ils se fâchent, ils se raccommodent, ils se refâchent. Mais l'amitié qui les unit demeure jusqu'à la fin indestructible. Ils se retrouvent tous les jeudis, ironisent sur presque tout, médisent avec gourmandise, se délectent de mots crus, affichent une liberté sexuelle qui scandalise et débattent de grandes questions philosophiques tout en maniant avec dextérité les pinces à sucre. Furieusement snobs et anticonformistes, ils rejettent en vrac la cérémonie du thé, les refroidissements de la reine Mary, le roman victorien, l'art frileux, le capitalisme naissant, la société anglaise, à mi-donnée, puritaine, étranglée de principes. Duncan Grant, à propos du Bloomsbury Group. Les lieux les plus vivants étaient le bureau de Virginia, à l'étage, et celui d'Adriane, au-dessous. Le bureau de Virginia était rempli de livres en désordre, et il s'y trouvait un pupitre devant lequel elle se tenait debout pour écrire. Il y avait deux fenêtres à cet étage. Virginia était très sensible au bruit, et celui qui venait de la rue était intense. Elle consacrait 2h30 chaque matin à l'écriture, jamais plus, je crois. Mais toujours régulièrement. Le bureau du rez-de-chaussée semblait le plus utilisé. C'était là que venaient leurs amis le jeudi soir, selon l'habitude qui avait été prise à Garden Square avant la mort de Toby et le mariage de Vanessa. C'est là qu'est né ce que l'on a appelé par la suite « Bloomsbury ». Les premiers invités arrivaient vers 10h du soir, et puis d'autres par intervalle jusqu'à minuit. Et il était rare que le dernier invité parte avant 2 ou 3 heures du matin. Whisky, buns, cacao étaient notre régime, et tout le monde se parlait. La conversation, c'était tout ce qu'il y avait. Pourtant, beaucoup de gens prirent l'habitude de venir, et peu d'entre eux oublieront ces soirées. Ce n'était certainement pas un salon. Virginia, à cette époque, n'était pas du tout la sorte d'hôtesse qui aurait convenu pour cela. Elle paraissait très timide. Elle était sans doute, et ne prenait jamais la parole en public. Dans les discussions générales, elle intervenait de temps en temps, mais le plus souvent en s'adressant à son voisin immédiat. Je pense qu'à l'époque dont je parle, son comportement à l'égard des hommes avait toujours quelque chose de distant et même d'un peu farouche. En 1912, Virginia épouse l'écrivain Leonard Woolfe, l'un des fondateurs du Bloomsbury Group. Leonard, qu'elle surnomme le juif sans le sou. Elle n'éprouve aucune attirance physique à son égard. Et elle le lui écrit, non sans une certaine cruauté. Comme je vous l'ai dit, je n'éprouve aucune attraction physique pour vous. Il y a des moments, quand vous m'avez embrassé l'autre jour, où je n'éprouve rien de plus que n'éprouverait un roc. Cependant, Léonard est brillant et Virginia lui trouve 1000 autres qualités. Les époux ont des liens forts. En 1937, Virginia décrit dans son journal son état d'épouse comme un grand plaisir et son mariage est complet. Virginia et Léonard s'adonnent à une orgie de lecture. Ils écrivent, se promènent, bavardent, reçoivent des visites qui parfois accablent Virginia. Car celle-ci est mondaine autant qu'elle est solitaire. Anéantie certains jours par les courbettes, elle s'y adonne d'autres jours avec délectation. Léonard lui laisse une entière liberté pour toutes les choses littéraires et domestiques. Mais il prend grand soin d'elle et de sa santé. En fin de compte, la maladie de son épouse, il en fera l'une des grandes œuvres de sa vie. Il étudie l'esprit de Virginia pendant près de 30 ans. Elle souffre de maux de tête terribles, alterne les phases d'excitation avec des périodes de grande mélancolie. Lorsqu'elle est malade, c'est-à-dire souvent, Léonard lui commande de boire 1 demi-litre de lait à 11 heures, de manger suffisamment, et de ne pas écrire. Le docteur le lui a défendu, ce qui n'était certainement pas le bon traitement dans son cas. Léonard est un homme très intelligent, un homme remarquable, une sorte d'ange aux yeux d'un bleu perçant. Il est convaincu que sa femme est maniaco-dépressive et pas neurasthénique comme l'ont décrite les médecins. Il tente de maîtriser la maladie de Virginia en lui imposant un régime régulier de repos et d'alimentation. Pour lui, sa maladie est intimement liée à son génie créateur, à son activité intense et à la tension suscitée par l'achèvement de chacun de ses livres. Il écrit « Si elle se fatigue en marchant trop loin et trop longtemps, si elle veille après 23 heures, 2 ou 3 soirs de suite, si elle se rend à trop de réceptions, la tension physique fait bientôt revenir les signaux d'alarme. » En 1913, Virginia Woolf fait une tentative de suicide. Elle est très malade. Elle passe plusieurs semaines alitée, folle à regarder le soleil frémir sur le mur comme une eau dorée, à écouter la voix des morts. Le couple s'installe au calme, à Richmond. Ils ne reviendront à Londres qu'en 1924. Ils s'installent alors dans le quartier de Bloomsbury, où ils resteront jusqu'en 1939. C'est l'époque où Virginia écrit ses plus grands romans. La chambre de Jacob, en 1922, portrait d'un jeune Britannique mort au champ de bataille. Mrs. Dalloway, en 1925, qui décrit la journée d'une femme de la haute société dans l'Angleterre d'après la Première Guerre mondiale. La promenade au phare, en 1927, le cinquième roman de Woolf, qui présente les vies de Mr. et Mrs. Ramsay, et de leurs enfants, ainsi que celle de leurs invités, en fait, un véritable mémorial à ses parents défunts. En 1928 paraît Orlando, roman né de sa liaison avec l'écrivaine et poétesse Vita Sackville-West, dont Virginia, bisexuelle, est tombée éperdument amoureuse. En 1931 paraît Les Vagues, roman expérimental dans lequel s'entremêlent les voix de 6 personnages. Dans son écriture, Woolf rompt définitivement avec les formes traditionnelles du roman. Elle ne s'attache jamais à l'intrigue ni à la progression dramatique. Elle expérimente les rêveries, les états d'âme, les pensées contradictoires de ses personnages infiniment complexes. Elle explore les multiples possibilités de narration, les chronologies morcelées. Écoutons-la nous parler des mots anglais dans une interview unique de la BBC en 1937. Virginia Woolf.
Words, English words, full of echoes, memories, associations. They've been out and about on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in today. They're stored with other meanings, with other memories. And they have contracted so many famous marriages in the past. The splendid word incarnadine, for example, who can use that without remembering multitudinous seas?
Les mots anglais, dit-elle, sont pleins d'échos, de souvenirs et d'associations. De façon naturelle, ils sont nés sur les lèvres des gens, dans leurs maisons, dans les rues, dans les champs depuis tant de siècles. De là provient l'une des principales raisons de la difficulté d'écrire. Ils sont gonflés d'autres significations, d'autres souvenirs. Le mot splendide « incarnadin », par exemple, qui peut l'utiliser sans se souvenir de mères innombrables ? Virginia travaille avec une ardeur infatigable. Travailler est sa seule parade contre la folie qui toujours la guette. Elle a fondé avec son mari Léonard en 1917 la maison d'édition Hogarth Press qui publie la plupart de ses œuvres. Tous deux impriment, collent, relient, choisissent des couvertures, composent et corrigent des manuscrits, ficellent et transportent des paquets jusqu'à en avoir les mains qui tremblent. Ils s'occupent de diffuser leurs livres chez les libraires de province qu'ils vont visiter en voiture. À ce travail d'éditrice qui la passionne, s'ajoute la rédaction de textes critiques, d'essais, de pamphlets, de romans, de lettres, de journaux intimes et de conférences, qui constituent, si on les additionne, une somme monstrueuse d'occupations. Mais il arrive que sa ferveur retombe, que ses forces fléchissent. Le génie, dit-elle, fonctionne à la façon d'un phare qui jette un rayon puis s'arrête pendant un certain temps. Capricieux, il peut lancer 6 ou 7 éclairs d'un coup, puis rentrer dans l'ombre pour une année, ou pour toujours. En 1929, le phare jette un rayon puissant et remarquable. Virginia Woolf publie un essai féministe qu'elle intitule « A Room of One's Own ». Traduit par « Une chambre à soi », ou plus récemment et sans doute plus justement par « Un lieu à soi ». Extrait. Il est indispensable qu'une femme possède quelque argent et une chambre à soi si elle veut écrire une œuvre de fiction. Quel est donc l'état d'esprit le plus propice à l'acte de création ? Peut-on avoir l'idée de l'état qui favorise et rend possible cette étrange activité ? Quel était l'état d'esprit de Shakespeare quand il écrivit Le Roi Lear et Antoine et Cléopâtre ? C'était assurément l'état d'esprit le plus favorable à la poésie qui ait jamais existé. Mais Shakespeare lui-même ne nous en dit rien. C'est par hasard que nous savons que jamais il n'effaçait une ligne. À vrai dire, rien jamais n'a été dit par l'artiste lui-même sur son état d'esprit, jusqu'au XVIIIe siècle, Rousseau sans doute. Depuis, cette énorme littérature de confession et d'auto-analyse permet de déduire qu'écrire une œuvre géniale est presque toujours un exploit d'une prodigieuse difficulté. Tout semble s'opposer à ce que l'œuvre sorte entière et achevée du cerveau de l'écrivain. Les circonstances matérielles lui sont en général hostiles. Des chiens aboient, des gens viennent interrompre le travail, il faut gagner de l'argent, la santé s'altère. De plus, l'indifférence bien connue du monde aggrave ces difficultés et les rend plus pénibles. Le monde ne demande pas aux gens d'écrire des poèmes, des romans ou des histoires, il n'en a aucun besoin. Peu lui importe que Flaubert trouve le mot juste ou que Carlyle vérifie scrupuleusement tel ou tel événement. Et bien entendu, il ne paie point ce dont il n'a cure. C'est pourquoi l'écrivain, qu'il soit Keats, Flaubert ou Carlyle, est atteint de toutes les formes de déséquilibre et de découragement. Une malédiction, un cri de douleur s'élève de leurs livres d'analyse et de confession. Grand poète dans la misère, tel est le refrain de leur chant. Si, en dépit de toutes ces difficultés, quelque chose naît, c'est miracle. Mais les difficultés, pensais-je, était infiniment plus terrible quand il s'agissait de femmes. Et tout d'abord, il était hors de question qu'elles eussent une pièce personnelle, ne parlons pas d'une pièce tranquille ou à l'abri du bruit, à moins que leurs parents ne fussent exceptionnellement riches ou de grande noblesse. Si une femme écrivait, elle devait le faire dans le salon commun, et sans cesse on interrompait son travail, chose dont Miss Nightingale devait se plaindre avec tant de véhémence. Les femmes n'ont jamais une demi-heure dont elles puissent dire qu'elles leur appartiennent. Jane Austen écrivit dans ces conditions jusqu'à la fin de ses jours. Qu'elle ait été capable d'accomplir tout cela, écrit son neveu dans ses souvenirs, reste surprenant, car elle n'avait pas de bureau personnel où se retirer, et la plus grande partie de son travail dut être faite dans le salon commun, où elle était exposée à toutes sortes d'interruptions. Elle prenait grand soin que les domestiques, les visiteurs ou qui que ce fût hors de sa propre famille ne pût soupçonner son travail. Elle cachait ses manuscrits ou les recouvrait d'une feuille de papier buvard. 1939. La guerre éclate. Le monde sombre. Virginia Woolf fait don d'un de ses manuscrits pour aider les réfugiés d'Allemagne. Les jours entre deux bombardements sont faits d'une attente anxieuse. Les rues de Londres sont désertes, les maisons sont bombardées, Londres, qui est dans son cœur, est bombardée. Virginia écrit « Tous les murs qui protègent et réverbèrent, ce sont du fait de la guerre terriblement amincis. Il n'y a plus de principe qui justifie d'écrire, plus de public pour vous répondre. La tradition elle-même est devenue transparente. » En février 1941, Virginia achève son dernier roman, Entre les actes, et l'envoie à John Lehman, collaborateur de Leonard à la Hogarth Press. Ce dernier lui envoie une lettre très élogieuse et lui annonce la parution du livre pour le printemps. Le 20 mars, elle adresse à John Lehman une lettre d'excuse, lui expliquant que son roman est faible et insuffisamment fouillé et qu'elle demande le report à l'automne de sa publication. Le même jour, Vanessa, venue prendre le thé, s'inquiète de l'état de sa sœur et l'exhorte à se soigner. Le 23 mars, Virginia répond à Vanessa que l'horreur a recommencé. Des voix inhumaines l'assiègent. Elle redevient folle. Elle pense qu'elle ne pourra pas surmonter cette nouvelle épreuve. Le 28 mars 1941, à bout de force, elle remplit ses poches de pierre et se jette dans la rivière près de Monk's House, sa maison de Rodmel. Lettre à Léonard, son mari. À toi, le plus cher. Je suis certaine que je retombe dans la folie, et je sens que nous ne pourrons pas supporter encore une de ces périodes terribles. Je sens que je ne m'en remettrai pas cette fois-ci. Je commence à entendre des voix et ne peux pas me concentrer, alors je fais ce qui semble être la meilleure chose à faire. Tu m'as donné le plus grand bonheur possible. Je ne peux plus lutter. Je sais que je gâche ta vie, que sans moi tu pourrais travailler. Et je sais que ce sera le cas. Tu vois, je ne puis même pas écrire ces mots comme il faudrait, je ne peux plus lire. Ce que je tiens à dire, c'est que c'est à toi que je dois tout le bonheur de mon existence. Tu as été avec moi d'une patience inlassable et d'une incroyable bonté. Je tiens à le dire, tout le monde le sait. Si quelqu'un avait pu me sauver, cela aurait été toi. Tout m'a abandonné, sauf la certitude de ta bonté. Je ne peux plus continuer à gâcher ta vie. Je ne pense pas que deux personnes auraient pu être plus heureuses que nous l'avons été. » Le corps de Virginia Woolf est retrouvé 3 semaines plus tard, le 18 avril. Léonard enterre ses cendres dans le jardin de Monk's House, sous l'un des deux grands ormes baptisés Léonard et Virginia. Et la guerre continua. Plusieurs millions de personnes connurent une mort violente. Pour ses contemporains, le décès de Virginia Woolf appartenait aux ténèbres de la guerre et la guerre se referma sur elle. Dans la décennie qui suivit, ses écrits et sa vie furent, non pas négligés, mais identifiés à une période révolue de la culture anglaise. C'est seulement dans les années 60 qu'elle fut peu à peu transformée en héroïne, en icône, en mythe, pour un cercle de lecteurs de plus en plus vaste. Ce portrait de Virginia Woolf a été composé à l'aide du livre de Lydie Salver, Cette femme, ainsi que de la biographie d'Hermione Lee, Virginia Woolf ou L'aventure intérieure. Les extraits sonores sont tirés de l'émission Une vie, une œuvre de France Culture. La prochaine fois, mercredi 13 décembre, je vous parlerai de Philippe Roth. En attendant, bonne écoute sur les bonnes ondes de Radio B et n'oubliez pas les podcasts sur radio-b.fr. À bientôt !